Au matin, verdâtre, elle m'annonça qu'elle n'avait pas fermé l'œil.
Les acariens ont la vie dure. Je commence à avoir du mal à respirer.
Elle avait le souffle particulier des asthmatiques. Que va-t-il se passer ? Demandai-je.
Ça va empirer.
Bon, j'appelle un taxi, on retourne à Paris.
Attends, donne-moi le contrat de réservation pour cette semaine de merde.
Je lui tendis les documents. Elle lut à la loupe tous les textes minuscules que personne ne déchiffre jamais. Une heure plus tard, elle s'écria.
Je vais faire jouer cette clause d'annulation.
Elle téléphona au numéro inscrit en microscopique et n'eut pas besoin de simuler pour parler d'une voix d'asthmatique.
Mourir d'une crise d'asthme, c'est fréquent,
l'entendis-je dire. Quand elle raccrocha, elle m'annonça que l'ambulance arrivait.
Tu vas à l'hôpital ? Demandai-je. Non, nous rentrons à Paris, toi et moi. Tu es mon accompagnatrice, c'est légal.
Nous rentrons à Paris en ambulance ?
Oui, dit-elle avec fierté. Non seulement je te fais économiser une grosse somme, mais en plus, ce sera beaucoup plus rapide. Préparons les bagages.
Le pimpon de l'ambulance ne tarda pas à retentir. La loi exigeait que Petroni y entre sur un brancard. Elle ne se fit pas prier. Je crus d'abord qu'elle jouait la comédie. Mais quand nous fûmes installés dans l'ambulance, elle allongée et moi assise auprès d'elle, je m'aperçus qu'elle était vraiment très malade. J'avais rencontré beaucoup plus asthmatiques que moi. Le trajet à Cariaz-Paris dura 6 heures. Peu à peu, Petroni retrouva son souffle et quelques couleurs. Les ambulanciers se montrèrent parfaits, compétents, rassurants. Arrivé dans le 20e arrondissement de Paris, ils lui demandèrent si elle voulait aller à l'hôpital ou chez elle. Elle assura qu'elle serait mieux dans son appartement. Je l'aidai à monter ses affaires jusqu'à son 5e étage sans ascenseur. Quand elle fut réinstallée, elle s'exclama.
« Les sports d'hiver ? Plus jamais !»«
C'est précarisant ?» Elle ignora ma question et déclara.
« Nous ne dirons à personne que nous sommes rentrés. D'accord ? Je veux savoir ce que c'est d'être ignoré à Paname du 28 décembre au 1er janvier. »«
Moi, je sais que tu es là. »«
Oui, tu as le droit de t'occuper de moi. »
Elle considérait cela comme un authentique privilège. Puisqu'elle émergeait à peine d'une crise d'asthme très grave, je l'aménageais. Je l'emmenais se promener lentement dans les jardins du château de Versailles, à Bagatelle et au Luxembourg. Au salon de thé Angelina, nous goûtâmes d'un Mont Blanc et d'un chocolat chaud. Ses soins me valurent ce remerciement.
« T'es très douée pour les programmes troisième âge. »«
Ce n'est pas la gratitude qui t'étouffe, dis donc. » Le 31 décembre, j'eus beau téléphoner, je ne trouvais aucun restaurant où il restait l'ombre d'une place. Je proposais un réveillon champagne œuf coq chez elle ou chez moi. Elle ne sembla pas emballée et dit
« Et si on allait chez mes vieux ?»«
Tu es sérieuse ?»«
Quoi ? Tu veux pas ?»«
Si, mais j'ai peur de les gêner. » Elle haussa les épaules et appela ses parents.
« Pas de problème, » annonça-t-elle. « Sauf si ça te dérange de côtoyer des gens de la section. »
« La section ?»«
La section communiste d'Antony. »
Une telle étrangeté me donna encore plus envie d'y aller. En fin d'après-midi, Petroni m'emmena dans le RER B. À Antony, nous prîmes un bus qui traversa une banlieue propre et déprimante. Les parents Fanto habitaient un pavillon que le grand-père avait construit de ses mains dans les années 60. C'était ordinaire et confortable. Pierre Fanto, un grand gars sympathique d'une 50aine d'années, me présenta aux invités de la section. Un certain Dominique et une certaine Marie-Rose. Cette dernière, une vieille chèvre stalinienne, était aussi raide qu'effrayante. Françoise Fanto, une femme fine et jolie, servait l'assemblée avec une timidité qui n'étonna que moi. Quels que fussent les propos, le but semblait d'obtenir l'aval de Marie-Rose. Je ne savais pas si elle était plus gradée que les autres, mais elle paraissait détenir la vérité. Ainsi, quand Dominique osa dire que la Corée du Nord n'avait pas l'air de se porter à merveille, elle trancha aussitôt. « Elle va beaucoup mieux que la Corée du Sud, et c'est ce qui nous importe !» Pierre évoqua son récent voyage à Berlin en s'inquiétant de la hausse des prix. Marie-Rose ne le laissa pas continuer. «
tous les Allemands de l'Est ont conscience du bonheur perdu.
Heureusement, il nous reste Cuba, dit Pierre.
Je gardais le silence et j'observais Petroni qui, habitué, ne réagissait pas et s'empiffrait de saucissons secs tandis que son père mettait de la musique. Mon manque de culture en matière de chansons françaises dépassant l'imagination, j'eus l'ingénuité de demander ce qu'on était en train d'écouter.
« Jean Ferrat, voyons !»
répondit Marie-Rose avec indignation. Pierre déboucha une bouteille d'un grave excellent. Enfin, une valeur que nous avions en commun. Le vin détendit l'atmosphère.
« Qu'est-ce qu'on mange ?» interrogea Petroni.
« J'ai préparé mon bœuf-carotte !»
répondit son père.
« Ah, le bœuf-carotte de Pierre !»
s'extasia Dominique. Ce classique français, inconnu en Belgique, je le goûtais avec une vraie curiosité.
« Tu n'avais jamais mangé de bœuf-carotte ?»
dit Pierre, stupéfait.
« D'où venez-vous donc ?»
me demanda Marie-Rose.
« Je suis belge, »
déclarai-je, prudente, me doutant que toute autre information susciterait la méfiance. Puis, ils se mirent à parler de politique française avec fureur. 2002 avait été une année funeste et 2003 ne présageait rien de bon. Ils commentèrent diverses évolutions sociales qui les indisposaient au plus haut degré. Pierre concluait à chaque fois par un coléreux
« C'est la faute à Mitran !»
et l'assemblée de l'approuver haut et fort. Aux abords de minuit, on en était toujours là. Françoise apporta une somptueuse charlotte au chocolat de son cru. J'en mangeais une portion non négligeable.
« Ça a de l'appétit, les Belges !»
approuva la section. Je ne démentis pas. Quand retentirent les 12 coups fatidiques, on but du champagne Baron Fuente.
« Le seul aristo qu'on verra chez moi !»
dit Pierre. Il se défendait bien. En plus de ses innombrables autres bienfaits, le champagne a le talent de me réconforter. Et même quand je ne sais pas de quoi j'ai besoin d'être réconforté, le breuvage le sait, lui. Vers 2 heures du matin, je m'effondrai sur un vieux canapé du grenier et m'endormis à la seconde. Plusieurs heures plus tard, je pris le RER pour Paris avec Petroni.
« Ça va? T'es pas traumatisé ?»
me demanda-t-elle.
« Non.
Pourquoi ?»«
Les déclarations de la section. »
La réalité a dépassé mes plus folles espérances. Elle soupira.
« J'ai honte de mon père. »
« Mais tu as tort, il est gentil et sympathique.
Tu as entendu ce qu'il raconte ?»«
Quelle importance ! Ces énormités sont inoffensives. »«
Elles ne l'ont pas toujours été. »«
Elles le sont devenues. » »«
Il se contente de répéter les discours de son père. » »«
Tu vois, c'est de la pure allégeance. La réalité ne compte pas pour lui. » »«
C'est exactement ça. Eh bien, j'en ai souffert. » »« Par exemple, puisque la propriété, c'est le vol, il a jamais fermé la maison à clé. » Et nous avons été cambriolés je ne sais combien de fois. Ça m'a rendu dingue, je te jure.
Je comprends.
Et ta mère, elle pense comme lui?
Va savoir, elle est aussi timorée qu'intelligente. Elle a la carte du parti, mais dans l'isoloir, je pense qu'elle vote socialiste.
Elle craint ton père?
Il n'a pas l'air dangereux? Elle veut pas l'attrister. Mais elle n'est pas de son espèce. Ma mère n'aime rien tant que l'opéra. C'est elle qui a choisi mon prénom.
Et ton incroyable culture littéraire, d'où te vient-elle?
C'est une création personnelle. Mon père ne lit que Luma ou des livres sur la Première Guerre mondiale, sa passion. Ma mère a des lectures que je qualifierais d'aimables.
Je vois. Qu'est-ce que tu as dû te sentir seule? T'as pas idée? Par la fenêtre du RER B, je scrutais ce paysage pavillonnaire. Objectivement, il y avait pire que ces maisons souvent anciennes, ces rues paisibles et ces jardins bien tenus. Pourquoi ce panorama inspirait-il un si profond désir de suicide? Il me sembla soudain entrevoir, à la fenêtre d'une habitation trop vite croisée, l'adolescence de Petronille. La souffrance vraie d'une fillette au goût absurdement aristocratique, acquise aux idéaux d'extrême-gauche, mais heurtée par l'esthétique prolétarienne, ses bibelots d'une laideur sans complexe, ses lectures d'une bêtise choquante. Je regardais à nouveau Petronille. Elle était tellement mieux qu'une fille cultivée. Son air de mauvais garçon aux yeux de piment rouge, son petit corps nerveux et musculeux de prisonnier évadé, et cette curieuse douceur du visage qui l'apparentait à Christopher Marlowe. Comme celui-ci, elle aurait pu avoir pour devise « Ce qui me nourrit me détruit ».
La grande littérature, qui avait constitué l'essentiel de son alimentation, était aussi ce qu'il avait maintenu à l'écart des siens, creusant entre elle et eux un fossé d'autant plus infranchissable que son clan ne le comprenait pas. Ses parents l'aimaient, et pourtant, ils avaient peur d'elle. Françoise, qui avait l'âme délicate, admirait les romans de sa fille et les comprenait parfois. Pierre n'y comprenait rien et ne voyait pas en quoi cette prose surclassait celle de son journal de bord. J'éprouvais un puissant élan d'admiration pour Pétronille et je le lui dis. « Merci, l'oiseau, » répondit-elle. Elle avait décrété, sans que je me confie à elle, que j'appartenais à la race aviaire. C'est dire la justesse de son instinct. Depuis mes 11 ans, la jante ailée m'obsède jusqu'au point de non-retour. J'ai tant observé les oiseaux que je dois par contagion avoir attrapé quelque chose de ce règne. Quoi, au juste ? Je doute que le langage puisse m'aider à l'exprimer. On pourra m'objecter que 11 ans, c'est tard. Oui, mais auparavant, d'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai été obsédée par les œufs et je le suis toujours. On ne peut nier la cohérence de mes fixations. Les 11 années auront sans doute coïncidé avec la durée de couvaison. À 11 ans, je suis devenue un oiseau. Lequel ? Difficile à préciser. Curieux hybride de sterne arctique, de cormoran, d'hirondelle et de poule d'eau, mais aussi de buse variable. Mes livres s'apparentent à mes pontes. Parmi les étonnantes barbaries de l'espèce aviaire, signalons celle-ci. Les oiseaux adorent manger des œufs. C'est un de leurs aliments préférés. Cela se vérifie avec moi. Mais ils préfèrent manger les œufs des autres. Je confirme. Une fois que les miens n'ont plus besoin de mes soins, je préfère lire les livres des autres.